Vous écoutez
RMC.
Vendredi 10 juillet,
l'info sur RMC.
Il est presque 6h. Céline Kallmann est là pour les dernières informations. Céline, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques, bonjour à tous. Notre-Dame restaurée à l'identique, charpente en bois, toiture en plomb. Décision de l'Élysée saluée par de nombreux architectes. L'Assemblée a voté hier soir un troisième budget de crise. 45 milliards d'euros supplémentaires pour secourir le tourisme, l'automobile et l'aéronautique. Et puis chocolat, kiwi, concombre, poisson, menu idéal pour éviter le coup de pompe en voiture. C'est rouge pour les départs aujourd'hui en Île-de-France, orange partout ailleurs. Il est 6h sur RMC, bienvenue. Aux oubliettes, une cathédrale au toit végétalisé, une flèche en verre, ce sera finalement comme avant, avant ce 15 avril 2019 où une partie de l'édifice est partie en fumée. Notre-Dame de Paris sera donc reconstruite à l'identique. Emmanuel Macron abandonne le projet d'une reconstruction contemporaine. L'architecte en chef plaide pour une charpente en bois et une toiture en plomb. Anne-Sophie Balbière.
La flèche sera reconstruite à l'identique, la même que celle ajoutée au monument en 1859 par Eugène Viollet-le-Duc, de style gothique. Un choix qui satisfait Patrick Chauvet, le recteur de Notre-Dame de Paris.
J'ai toujours dit que je souhaitais qu'il n'y ait pas quelque chose de farfelu sur la cathédrale, parce qu'il faut respecter ce lieu, qui est un lieu cultuel avant tout. Je voulais aussi que ça fasse une unité dans l'ensemble de l'édifice.
Pas de flèche en verre donc, pas de parc jardin bio sur le toit, pas de terrasse panoramique. Une façon de gagner du temps pour la reconstruction, explique Catherine Tricot, architecte urbaniste.
Toutes les statues peuvent être restaurées, donc être remises en place dans le cadre de cette restauration à l'identique. Le deuxième aspect, c'est que ça évite d'avoir un concours international et on peut aller beaucoup plus vite.
Emmanuel Macron prévoit toujours une reconstruction en 5 ans avec une réouverture en 2024.
Jean Castex va poursuivre ses rencontres en fin de journée avec les partenaires sociaux qui, et c'est rare pour le souligner, sont tous d'accord sur deux priorités, l'emploi et la relance. Pas question de remettre sur la table pour le moment le dossier des retraites. Le Premier ministre qui se rend ce matin à Dijon avec son ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Une visite un mois après les affrontements survenus dans le quartier des Grésilles. D'ailleurs, hier soir, deux personnes ont été mises en examen et écrouées dans cette affaire pour violence en réunion. Gérald Darmanin, dont la nomination comme premier flic de France a fait naître un mouvement de protestation. Il est visé par une plainte pour viol à Paris, Nantes, Angers, Rennes ou encore quand les associations féministes appellent à son départ, un mouvement pris très au sérieux au sein de l'exécutif, Jérémy Trottin.
Des appels à manifester, des articles dans la presse internationale, l'exécutif ne cache pas son embarras et s'inquiète de voir son bilan contre les violences faites aux femmes anéanti par l'arrivée de Gérald Darmanin à l'intérieur. L'Élysée rappelle qu'en la matière, d'importantes mesures ont déjà été prises. Allongement de la prescription de 20 à 30 ans pour les crimes sexuels commis sur mineurs, bracelet d'éloignement pour les conjoints violents ou encore reconnaissance du suicide forcé. Preuve du malaise, le chef de l'État envisage un déplacement pour rappeler son soutien à l'égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat. Et si l'exécutif assure aujourd'hui son plein soutien à Gérald Darmanin, à Matignon, les choses sont claires. Si l'enquête révèle le moindre doute, c'est simple, il dégagera, affirme l'entourage du Premier ministre. En attendant, la sécurité aux abords du ministère de l'Intérieur a été renforcée pour éviter la venue d'éventuelles manifestantes.
Un troisième budget d'urgence a été adopté hier soir par l'Assemblée nationale. Il prévoit environ 45 millions d'euros supplémentaires pour aider le tourisme, l'automobile, l'aéronautique. Le texte doit maintenant être examiné par le Sénat. Parmi les amendements qui figurent dans le texte, on vous en parlait dès hier, la limitation d'achat des cigarettes dans les pays frontaliers avec la France. Une cartouche au lieu de 4 habituellement aujourd'hui. Les fumeurs sont forcément moins emballés que les buralistes français. Reportage à la frontière belge, Rémi Deremo et Marion Fournet.
Chez ces consommatrices de la région lilloise, habituées à se fournir en Belgique, l'amendement a du mal à passer.
Je trouve ça aberrant, même dégueulasse, parce que les petits citoyens, les petits salaires, les petits trucs qu'ils vont encore subir.
Quand vous pensez qu'une cartouche de cigarette en France, je paye 94 euros, ici en Belgique 68. Vous voyez la différence qu'il y a ?
Une différence qui irrite les buralistes français, eux qui avaient retrouvé le sourire pendant le confinement, quand les habitants de la région ne pouvaient plus se déplacer hors de l'Hexagone. Christophe Carpentier, président de la Fédération des buralistes lillois.
Il y a certains de mes collègues, de mes confrères, qui ont multiplié par 5 leurs chiffres tabac, donc c'est quand même très significatif. Et là, on redescend tout doucement et c'est reparti comme avant, quoi, tout simplement.
Évidemment, lui se réjouit de la restriction des achats de tabac à l'étranger.
Je comprends le français qui va en Belgique, au Luxembourg, parce que bon, quand vous payez deux fois moins cher votre paquet de cigarettes, je le comprends. Ce qui est sûr, c'est que pour nous, c'est pas logique, quoi. Donc à partir de ce moment-là, je pense que c'est une bonne chose.
Adopté hier soir à l'Assemblée nationale, le troisième budget d'urgence qui contient un amendement sur le tabac doit désormais être examiné par le Sénat.
Oui Céline, et tout à l'heure Olivier Véran sera mon invité, le ministre de la Santé et des Solidarités, la Santé, le tabac, je lui parlerai du prix des cigarettes et des différences entre les différents pays d'Europe.
Et fin de l'état d'urgence sanitaire ce soir à minuit, sauf en Guyane et à Mayotte. De possibles restrictions sont toujours possibles jusqu'à fin octobre, par exemple sur les déplacements ou les rassemblements. À Laval, en Mayenne, il n'y aura pas de festivités pour le 14 juillet. Toutes les manifestations publiques sont suspendues jusqu'au 27 juillet. La raison, la multiplication de cas de coronavirus. Le département va d'ailleurs lancer un dépistage massif à partir de lundi. Aux États-Unis, l'épidémie est toujours hors de contrôle. Nouveau record du nombre d'infections en 24 heures, 65 500 cas supplémentaires. Les États-Unis, où la Cour suprême a infligé un sérieux revers à Donald Trump, la justice est en droit de réclamer les archives comptables du président américain. Jean-Bernard Cadier, correspondant de RMC et BFM TV.
Donald Trump va devoir envoyer les détails de sa situation financière au procureur de New York. Celui-ci n'a pas le droit de les rendre publics, en tout cas pas avant la présidentielle de novembre. Alors pourquoi est-ce que Donald Trump est tellement en colère ? Sur Twitter, il dit que c'est injuste, que c'est une manœuvre politique de plus contre lui. Parce qu'il n'aime pas du tout que les juges new-yorkais mettent leur nez dans ses comptes. Selon son ancien avocat, ça fait des dizaines d'années que Trump maquillait ses comptes pour à la fois paraître plus riche qu'il n'est et payer moins d'impôts qu'il devrait. Son opposant à la présidentielle, Joe Biden, lui a répondu également sur Twitter « Monsieur le Président, faites comme moi, j'ai publié 21 ans de déclarations d'impôts ».
Il risque la peine de mort. Un Français de 65 ans a été arrêté en Indonésie fin juin. On l'a appris qu'hier, il est soupçonné d'abus sexuels sur plus de 300 mineurs. Le retraité aurait installé un studio photo dans sa chambre. Il faisait monter des jeunes filles en leur promettant de travailler comme modèle. RMC 6h07. Bien dormir la veille d'un long trajet ne suffit pas à lutter contre la somnolence au volant. Si vous mangez trop gras ou trop sucré, eh bien vous êtes presque sûr d'avoir le fameux coup de barre. Poisson, lentilles, kiwi au menu. Repas optimal pour ne pas piquer du nez. Et vous alors, que mangez-vous avant de prendre la route ? Reportage à Toulouse de Jean-Wilfried Forquès et Maxime Lévy.
Lorsqu'il part en vacances, Nourdine s'arrête régulièrement pour éviter la fatigue, mais il a une autre astuce, pas de repas copieux avant de prendre la route.
Je mange plutôt léger, voilà, je vais être tranquille, je mange une salade, je m'hydrate, c'est clair, mais j'évite de m'encombrer le ventre pendant le trajet.
De son côté, Denis fait tout le contraire, il ne veut pas que la faim le tiraille en plein milieu du trajet.
Mon plat de pâtes, un morceau de viande et un petit peu de légumes. Il vaut mieux prévoir un repas assez consistant quand même, histoire de pouvoir tenir la route si on a plusieurs bornes à faire. Ouais.
Surtout pas selon le nutritionniste Frédéric Salman. Afin d'éviter la somnolence, première cause de mortalité sur la route, il propose quelques conseils.
Les aliments comme les radis, des lentilles qui sont parfaits pour accompagner une volaille ou un poisson blanc. Et un petit peu d'acidité, de vitamines avec du kiwi. Ne vous gavez pas avant de prendre la route et là vous aurez tous vos réflexes pour éviter les accidents.
Et pour finir le repas, le médecin propose un carré de chocolat noir ou comment se faire plaisir tout en restant vigilant.
Il y a du monde hein, sur les routes aujourd'hui pour les départs en vacances. Drapeau orange partout, rouge en Île-de-France. Bon.